Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois. Comment vous présenter notre invité de la semaine? Sa feuille de route est à ce point impressionnante qu'on ne sait pas par où commencer. Avocat, homme politique et communicateur, membre de l'Assemblée nationale du Québec de 1969 à 1976, il fut ministre au sein de gouvernements d'allégeances différentes, soit dans le cabinet de Jean-Jacques Bertrand de l'Union nationale et dans le gouvernement libéral de Robert Bourassa. Au moment où le Québec vit une période animée au plan des relations de travail au début des années 70, l'époque du premier front commun et de l'emprisonnement des chefs des trois grandes centrales syndicales québécoises, du saccage du chantier à la baie James et de la création de la commission Clich, entre autres, on le retrouve ministre du Travail et aussi ministre de la fonction publique avec mandat d'atténuer plusieurs conflits. Infatigable, on le retrouve là où il devrait toujours y être, c'est-à-dire sur presque tous les conflits. Il occupe même le portefeuille des richesses naturelles du Québec et on peut dire qu'il a connu également une brillante carrière comme animateur, intervieweur, commentateur à la radio et à la télévision. Et malgré son image de bagarreur, un véritable gentilhomme, Monsieur Jean Cournoyer. Bonjour,
bonjour
à vous.
Bonjour.
Bagarreur, disais-je.
Oui.
Une époque que vous avez, on peut le dire, occupée à peu près constamment, autant au plan des interventions politiques, au plan des médias, parce que vous étiez toujours sur la sellette. Les années 70, là, ça bougeait. Là.
Ça bougeait énormément. C'était, on se souviendra que c'était tout de suite après ce grave événement du FLQ qui avait eu lieu en 70, comme tout le monde le sait. Et c'était aussi à l'époque où les syndicats commençaient vraiment d'exister dans la fonction publique puis dans les travaux publics en général.
Premier front commun. Hein?
C'est, oui, le premier front commun qui est arrivé, mais c'est parce qu'il avait obtenu le droit de grève finalement en 64. Et entre 64 et 70, on peut dire qu'il s'agissait de faire le recrutement parce que ça ne leur avait pas été donné sur un plateau d'argent. Il y avait toujours des petits conflits aussi entre les différentes centrales syndicales. Il y en avait de graves, mais des petits souvent dont on n'a jamais entendu parler. Par exemple, lorsqu'il y a eu le Front commun, il y a eu une séparation très, très rapide, des cassures raides entre la fonction publique québécoise qui travaillait pour le gouvernement, et la CSN à l'époque, qui était plutôt politique à cette époque-là, et les fonctionnaires ne voulaient pas être politiques. Donc, ça a fait une grosse scission avec les 3D, c'est pas, vous vous souvenez des 3D,
Dalpé, Dion,
puis
d'autres méchants. Le nom nous reviendra.
On les appelait les 3D, qui ont formé la centrale des syndicats démocratiques, la CSD.
Ouais.
Donc, on avait, à cette époque-là, on faisait partie de tout de suite après la Révolution tranquille, de 1960 à 70, c'était la Révolution tranquille. Et là, on vivait les effets de ce changement de mentalité qui était survenu à l'occasion d'un changement de politique.
Changement de mentalité, mais il faut dire que la personnalité même de Jean Cournoyer, il faisait pour beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de dire qui est le ministre du Travail, on va chercher longtemps. À l'époque, le ministre du Travail, probablement parce que vous aviez une personnalité relativement forte, vous aviez quand même un bagage d'expérience au plan de la négociation.
Mais j'étais surtout quelqu'un qui... Puis je suis encore, je n'ai pas changé du tout.
Oui.
J'étais quelqu'un qui n'avait aucune crainte d'affronter la presse et de leur expliquer ce que je vivais comme ministre du Travail responsable d'une grande partie
exact.
Du climat social de la province. Alors, je me disais, je dis, bon, étant donné que je n'ai pas nécessairement raison, mais que je peux vous dire pourquoi je pense comme je pense et pourquoi nous devrions tous penser de la même façon, je ne craignais jamais, et je n'ai jamais craint, d'aller expliquer à la population très souvent par-dessus les centrales syndicales, qui n'avaient pas ça du tout. C'est qu'en parlant à la population, je parlais aussi à leurs membres.
Mais vous aviez justement une langue qui n'était pas une langue de bois.
Non.
Vous parliez les termes, vous utilisiez les termes de monsieur et madame tout le monde et souvent ceux des syndicalistes aussi.
Oui, la même chose, excepté ceux de Chartrand. Ça, j'ai jamais été capable de copier Chartrand à la télévision, je veux dire.
En passant, c'était d'Alpé, Dion et d'Aigle.
Ah, c'est d'Aigle, c'est ça. Les 3D.
Bon. Revenons à 1974, après le Front commun, il y a eu une grève importante, celle du transport à Montréal. Et là, des éditorialistes comme Claude Rayun, Guy Cormier de la Presse, vont vous reprocher de ne pas intervenir.
Ben, peut-être parce que eux autres, assis à écrire des éditoriaux, c'est assez simple hein, de dire aux autres comment faire puis de les blâmer parce qu'ils n'ont pas fait comme ils pensent qu'ils auraient dû faire. C'est normal, c'est leur fonction dans un journal de critiquer ou enfin d'inciter les hommes politiques à faire tel ou tel geste à la façon dont ils croient que c'est mieux de le faire. Mais quand t'es assis sur le trône, là, t'es pas à la même place du tout, là. Et il y a tout un ensemble de circonstances que tu peux expliquer, peut-être qu'ils comprendront pas, mais un ensemble de circonstances qui font que toi, comme ministre du Travail, t'es pas le premier ministre, t'es pas le gouvernement, et certaines contraintes qui n'apparaissent pas évidentes au monde sont là quand même. Je ne suis pas ministre des Finances. Et lorsque vous avez des gens ou des personnalités aussi fortes que celle de M. Drapeau, qui est quand même élu par 80% de la population à Montréal, qui est un maire respecté par tous, et quand il dit non, ça veut dire non.
Et qui, après la crise d'octobre, justement, avait raflé à peu près l'ensemble,
hein? L'ensemble.
Avait, avait tous les conseillers.
Je pense qu'il n'y avait aucune opposition. Mm-hmm. Ah non, il disait tout le temps,
balayage
c'est comme ça que
je
les aime gagner.
Voilà.
Je les aime les gagner comme ça, ils n'aiment pas ça d'opposition.
Ouais.
Quand il n'avait pas à Montréal, le petit ministre là, de député de Saint-Jacques, Benoît de Chambly, là, quand M. Drapeau, là, tu le rencontres puis tu dis, vous devriez faire ça, M. Drapeau, tu te mets quasiment à genoux pour lui parler. Là, parce que lui représente vraiment les Montréalais. Moi, je ne suis qu'un député d'une circonscription électorale. Je fais partie d'un gouvernement qui est à Québec, qui n'est pas à Montréal.
On doit vivre à ce moment-là un stress quand même assez important.
Disons qu'à l'époque, j'avais le front pour le vivre. Je ne dormais que peu, mais disons que quand tu as 38 ans, tu n'as pas 75 ans, puis à 38 ans, tu n'es pas accroché à un passé qui est trop long. T'as pas des expériences qui t'empêchent de faire aujourd'hui des choses que tu aurais dû faire.
Puisqu'on parle de passé, et pour bien comprendre cette période de l'histoire récente du Québec, il y avait plusieurs travaux d'importance, dont celui qu'a mis en chanson Georges Dor.
Ah, la Manique.
Si tu savais comme on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manique, wagon. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer, et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour. Ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales où tu es toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent
de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quoi donc. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui savent. Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quoi donc.
Monsieur Cournoyer, quand on pense à la Manique, on pense à tous ces projets que le Québec initiait également.
Oui, il y en avait énormément. Tu avais l'industrialisation du Nord. Tu avais Sept-Îles, où on construisait les usines de bouletage. Tu avais Schefferville, pas Schefferville, mais surtout à Fermont. Fermont qu'on construisait. En plus de Fermont, il y avait la mine de Mont-Rite, une des plus grosses mines au monde à l'époque. C'était le plus gros développement dans le milieu
du Grand Nord, du Labrador, Grand Nord, aussi.
Collé sur le Labrador.
Voilà.
Et bon, ça, c'était une mine. Tu avais la baie James qui marchait. Tu avais à Trois-Rivières, il y avait les papetières qui se réformaient, etc. Montréal n'était pas dénudé non plus. On construisait à travailler ici à Montréal.
Et comme ministre du Travail, vous en avez parlé, il y avait la baie James. C'était un projet qui tenait profondément à cœur à Robert Bourassa. Il avait fait une campagne électorale là-dessus avec les 100 000 emplois et le développement du Nord du Québec. Dans le livre de Charles Denis sur Robert Bourassa, Charles Denis qui a été le directeur des communications, je pense, de M. Bourassa,
c'est ça.
Il dit à votre propos, Cournoyer est un spécialiste des relations de travail. Surtout, entre Bourassa et lui, s'est établie une vieille relation faite d'amitié et de confiance. Personnalité sympathique et controversée, bénéficiant de l'appui inébranlable de Bourassa, Cournoyer a l'une des responsabilités les plus lourdes du cabinet, puisqu'il garde le portefeuille du travail. Quand on parle de responsabilité lourde, c'est qu'avec tous ces projets de développement, survenaient toujours, bien sûr, des tensions entre le patronat et les syndicats.
Surtout, et pas nécessairement toujours entre le patronat et le syndicat, entre les syndicats aussi. Parce que le conflit de la baie James, c'est une résultante directe du conflit entre la CSN et la FTQ pour le contrôle des chantiers de construction. La CSN était un syndicat reconnu par tout le monde, puis ça faisait partie aussi des décrets de la construction. Sauf que la FTQ n'endurait pas à l'époque, puis marquez bien qu'on parle des gros bras, là. Dédé Desjardins, qui était le vice-président de la FTQ à l'époque, était président du Conseil des métiers de la construction. Puis lui, pour un gars de la CSN, c'était un scab. Donc, il ne voulait pas en voir un sur le chantier de construction de la baie James. Et là, à la baie James en particulier, sur les chantiers industriels comme à Sept-Îles, l'usine de bouletage ou les raffineries de pétrole dans l'est de Montréal et du ultramar près de Québec.
Saint-Romuald.
Oui. Ces raffineries-là de pétrole, c'était des contrats négociés très souvent à Washington qui disaient qu'il fallait être membre d'une union internationale pour travailler là. Mais ici, au Québec, on avait la CSN qui était dans l'industrie de la construction. La chicane prenait, les bâtons de baseball sortaient. Puis les chaînes sortaient.
Et comment réussissiez-vous, parce que les bâtons de baseball, dites-vous, bon, on pense au saccage de la baie James, hein? Il y a eu tout. On a démoli beaucoup. Ça a amené d'ailleurs la création de la commission Clich. Comment vous réussissiez-vous à ne pas attraper, effectivement, le coup de bâton derrière la tête?
C'est parce que j'étais trop petit. Il n'y a pas personne de ces gros bonzes-là qui aurait osé me toucher. Puis je les affrontais la plupart du temps. Puis je leur disais, touchez-moi pas. Si vous voulez me toucher, c'est vous autres, vous allez l'avoir dans le front, parce que à frapper sur un petit qui est aussi responsable que je le suis devant l'opinion publique, vous pouvez pas me frapper. C'est ça que je me disais. Puis dans le fond, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse?
Mais vous étiez animé par la défense du bien commun.
Tout le temps. Mais j'ai jamais pensé à mon bien personnel. J'avais pas le temps. Et puis, ben, disons que c'était pas si mauvais que ça. La défense du bien commun, c'était bien sûr un leitmotiv, mais il en reste pas moins que c'était presque imperceptible dans ma façon de voir les choses. Ça n'était pas ça, mon... J'avais des conflits à régler. Mon patron, qui était Robert, mon chum, qui était Robert, puis moi, on s'entendait comme larrons en foire, même si parfois il m'a joué des tours pendables, mais même si j'en ai joué moi aussi.
Oui, parlez-moi d'une anecdote, justement, où vous êtes convoqué. Il y a un effet surprise avec Marcel Pépin que vous n'aviez pas vu venir.
Non, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. C'était sur les transports en commun à Montréal. Et on retourne, s'il y avait une grève qui durait et perdurait, d'après mon ministère, d'après moi, on ne devait pas intervenir, étant donné, comme je vous le disais il y a quelques secondes, la force de M. Drapeau qui, lui, disait non. Il avait décidé d'appliquer, si ma mémoire est bonne, une sentence arbitrale que les syndicats refusaient. Alors, peut-être une grève illégale, totalement illégale. Puis comment est-ce que tu fais pour intervenir quand tu es représentant de l'ordre, de la loi, dans une grève illégale? Ça m'est arrivé à un moment donné d'intervenir dans une grève illégale, mais je prends par exemple des policiers provinciaux. Ah, tu sais, bon, écoute, les policiers provinciaux avaient décidé à un moment donné de s'en aller en grève à cause d'une sentence arbitrale, puis Jérôme Choquette avait décidé qu'il resterait en grève.
Alors, on va revenir sur l'aspect surprise, j'allais dire, dans le bureau de Robert Bourassa, ouais. Mais auparavant, histoire de se retremper encore une fois dans cette époque, à l'époque où il y avait plein de chantiers, il y avait celui de l'abbé James, et c'est Richard Huet qui, à l'instar de Georges Dor, qui lui avait composé une chanson sur la Manique, a fait sur un air traditionnel de belles paroles, et la chanson porte titre « L'abbé James ».
Ah ben,
j'aimerais bien être un oiseau pour tout quitter, voler très haut pour oublier ce grand désert, la solitude de ce monde à faire, de la manie à la baie James. J'ai recherché mon Amérique, je t'ai laissé plus qu'à mon tour, mais je reviens au prochain printemps. J'ai bien pensé écrivant à t'envoyer un peu d'argent, tu habilleras les enfants, achète aussi quelque chose pour toi, de la manie à la Belgique. J'ai recherché mon Amérique, je t'ai laissé plus qu'à mon tour, mais je reviens au prochain printemps. J'ai retrouvé
à la baie James,
à la baie James.
l'abbé James, mais revenons sur l'incident. Vous vous retrouvez à un moment donné convoqué au bureau de Robert Bourassa.
Au bureau du premier ministre, le soir, tard. Il était 10 heures le soir. Et puis, je suis convoqué en même temps que M. Drapeau et M. Hannigan.
Lawrence Hannigan, qui était à ce moment-là président de la communauté urbaine.
De la Société de transport de Montréal.
Société de transport.
Je pense qu'il était président des deux en même temps, mais en tout cas, c'était lui le responsable des transports à Montréal. Et bon, je suis convoqué. Robert dit, bien, j'ai besoin de toi. Bon, dans ce temps-là, je demeurais à l'hôtel qui est de l'autre côté, sur le boulevard Saint-Cyril. Fait que je traverse, je m'en vais là. Moi, je m'imagine là, que... D'abord, je sais pas que M. Drapeau puis M. Hannigan sont là. J'arrive. Oup! Je rencontre le maire de Montréal puis M. Hannigan, tous les deux. Puis, bon, j'attends. Ce qu'il veut, Robert rentre. Bon, il dit, Jean, il dit, je vais te laisser avec eux autres, là. Puis, réglez ça, cette affaire-là.
Aussi simplement que ça.
Simple que ça. Bon, ce qu'on ne sait pas, là, c'est que d'abord, il faut régler ça avec quelqu'un. Je peux pas régler ça avec Hannigan, puis Drapeau, ils sont tout seuls, tous les deux. Là, il faut faire venir Pépin de Montréal.
Marcel
Pépin, président de la CSN, qui était, on le connaît, on l'a bien connu, Marcel. Fait qu'il était Marcel Pépin. Alors, le mot, faut le faire venir à Montréal, à Québec. Puis là, j'essaye. Bon, mais j'ai dit, il dit, je vais y aller. Bon, mais j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, on m'a envoyé à la Sûreté du Québec te chercher, tu vas y venir plus vite. Il dit jamais que je monterai dans l'automobile de la Sûreté du Québec. Bon, c'est correct, on va t'attendre.
Marcel. Il avait déjà connu la Sûreté du Québec pour d'autres raisons.
En tout cas, Marcel, il est arrivé, finalement, il était à peu près une heure du matin. Puis là, ben, on a commencé. On a commencé par dire, bon, écoutez, votre position, la position de maire Drapeau était idéologique. Puis, dans le fond, j'avais un problème, puis Marcel en avait un, puis Drapeau en avait un, mais lui, il n'en était pas conscient. Il disait qu'une sentence arbitrale, ça ne se change pas. C'est un jugement trop. Avec une notion comme ça, tu commences mal, là. D'abord, une sentence arbitrale, pour moi, dans ma conception, c'est toujours une convention collective qui est imposée, mais ça reste une convention collective qui est amendable par les partis.
Oui. Alors, puis on parlait quand même votre langage. J'étais avocat, alors un langage que vous connaissiez bien.
Je le connaissais très bien. J'avais pas de problème à les convaincre. Finalement, j'ai séparé. Je suis en allé avec Marcel. Je disais à Marcel, il y a quelque chose à faire, mais il n'y a rien à faire. Et Jean, j'ai un problème sur les bras. Moi aussi, j'ai mes membres. Non seulement j'ai mes membres, mais j'ai tous les travailleurs qui sont privés, puis qui sont membres aussi, mais qui ne sont pas membres de ce syndicat-là, mais qui sont privés de transport en commun le matin, puis le soir pour retourner à la maison. On a tous une responsabilité commune ici. Mais il dit, mes membres sont les premiers dont je dois m'intéresser, et M. le maire, c'est ses citoyens. Parfait. Une fois que ça a été dit, Monsieur le maire, j'ai dit, monsieur le maire, qu'est-ce que c'est qui est votre problème? Je vous le dis, là, demain matin, moi, je m'en vais expliquer au monde que vous ne voulez pas, puis c'est juste une question de principe que vous voulez pas que le lendemain matin, ils reprennent leur autobus pour aller travailler. C'est ça que je vais dire demain matin. Finalement, il y a eu une conversation avec Robert. Monsieur le maire, puis monsieur Hannigan, monsieur Robert les a rencontrés. Et là, je suis convaincu que Robert a tordu quelques bras en promettant quelques piastres. Parce que c'est de même que ça serait de là.
Parce que vous, votre marge de manœuvre, elle était presque anéantie.
C'était courte. J'avais pas. Quand tu pars avec les principes, là, c'était une chose. Mais quand tu pars avec Ponsen, c'était encore une autre chose. Puis là, j'en avais pas. Moi, j'ai pas d'argent à donner comme ministre du Travail. J'agis entre des partis qui ont des intérêts économiques opposés. Alors, à partir de ce moment-là, c'est le premier ministre qui peut dire au maire de Montréal, écoute, transport en commun, ça se finance aussi par le Québec.
Il y avait aussi, faut bien le dire, au sein des syndicats, des gens qui n'étaient peut-être pas à leur place.
Ben, disons que si on prend du côté de la FTQ en particulier, dans la construction, ça avait été envahi, ça, par des bandits, là. C'était plutôt des boxeurs, des anciens boxeurs, des bandeurs de clubs, et tout ça sous la direction de Dédé Vardin, qui, lui, était un plombier, mais qui était aussi capable d'être bandeur. Mes premiers contacts avec Dédé Vardin, c'était quand, à un moment donné, j'étais intervenu dans un conflit de transport en commun encore, mais cette fois-ci, c'était dans la construction du métro. Et là, je représentais le Builders Exchange dans ce temps-là. J'étais avocat pratiquant pour l'Association de la construction de Montréal, qui s'appelait à l'époque en anglais Builders Exchange. Mm-hmm. Et là, il y avait une grève dans le métro. Et là, la FTQ voulait continuer à travailler, mais la CSN ne voulait pas travailler, malgré les ententes qu'on avait signées avec eux autres. Alors, la CSN ne respectait pas toujours ses ententes. Mais sauf que là, pour pouvoir faire rentrer les gars de la FTQ, il fallait passer par-dessus une ligne de pitage de la CSN. Et là, j'ai vu Dédé Desjardins ouvrir la porte à des travailleurs pour qu'ils passent la traîne. Je te dis qu'il y en a qui tombaient. Il y avait des petits gants de kid, puis ôtez-vous de là. Ça, c'est mon premier contact avec Dédé Desjardins. Mais je ne savais pas qui il était, mais à l'époque, c'était des gens qui étaient appelés en renfort.
Alors, on verra comment vous avez pu gérer ces conflits avec des circonstances comme celles que vous venez de décrire, particulièrement au sein de la commission Clich, dont vous avez été, je pense, un des initiateurs avec le premier ministre. Vous avez préparé cette commission Clich. Mais auparavant, nous allons conclure cette première demi-heure d'entretien, M. Cournoyer, par une pièce que vous avez choisie, que je trouve très appropriée, celle de Georges Brassens, si vous nous en disiez un petit mot.
C'est juste parce que le temps ne fait rien à l'affaire. C'est l'antithèse de ce que les gens disent. Ils disent toujours que le temps va tout arranger. Mais le temps ne fait rien à l'affaire. C'est Brassens qui le dit, puis avec raison.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.